Alors, simplement l'économie de l'après-midi, si vous voulez bien, pour vous le remettre en mémoire. On travaille cet après-midi sur l'émergence du travail collectif en réseau Ambition Réussite, la co-intervention devant élèves. On va essayer de vous faire une présentation dans un premier temps pour rappeler un peu le contexte de la recherche que j'ai à peine évoqué ce matin, lancer la problématique de ce travail collectif et notamment en classe devant les élèves, avec simplement quelques éléments de littérature et de contextualisation, vous proposer un questionnement sur lequel on est actuellement en phase de réflexion. Ensuite, nous allons vous proposer des matériaux du corpus de la recherche dont on va vous parler juste avant. À partir de là, nous allons vous demander un effort maximal pour vous imprégner de ces vidéos, de comprendre l'activité, mais aussi de mettre en réserve vos remarques, vos critiques, vos analyses, en sachant qu'ici, le but, c'est qu'on puisse ensuite se distribuer dans trois salles, mais sans avoir forcément la possibilité de repasser juste derrière ces matériaux de recherche. Donc il va falloir prendre le temps de les voir avec un peu d'attention, mais on peut imaginer que lors de la synthèse en grand groupe, on revienne sur des moments particuliers. Si vous souhaitez appuyer votre argumentation, revisionner un moment particulier, on pourra faire ce travail-là de recalage de l'activité sur tel ou tel point, pour faire des zooms éventuellement. Il s'agira ensuite donc de faire une synthèse dans chaque groupe par rapport à des rapporteurs qui vont se désigner, d'essayer de notre part également de convoquer un peu notre analyse et perspective. Et ensuite, on essaiera de solliciter d'autres chercheurs des autres académies, puisque ce travail est plutôt ici lié, centré sur l'Académie de Créteil, pour que d'autres personnes, notamment Christine Félix, viennent pour présenter d'autres pistes possibles de co-intervention en classe. Voilà pour cet après-midi qui devrait se terminer autour de 17h30, 17h45 si on récupère le quart d'heure qu'on est en train de perdre tout de suite. Des questions, non? Alors, on vous propose, en l'espace de deux diapositives, il y avait une question, non? En l'espace de deux diapositives, de repréciser un peu le contexte même de cette recherche. Marie-Estelle Rouve, ici, donc, va vous donner quelques éléments de ce système. Alors, on est un peu coincé.
À l'origine, on est tous les deux enseignants de PS, donc on n'a pas trop l'habitude d'être assis. Ah bon. Donc, ça rajoute... Alors, donc simplement pour vous resituer, ou au moins pour situer les matériaux qu'on va vous présenter cet après-midi, qui vont servir de support pour les travaux en groupe. C'est donc dans le cadre d'étude doctorale en thèse, donc dirigée par Luc. Simplement donc la création de cet observatoire de l'activité des néo-titulaires, notamment essentiellement au sein d'un établissement de l'Académie de Créteil, ce dont a parlé ce matin Patrick Rayou. Où là, donc, on s'intéresse à l'activité professionnelle des enseignants en classe. Alors, du coup, c'est pas. Voilà. Donc, on est effectivement, on a à peu près une cinquantaine d'enregistrements, puisqu'on suit actuellement 6 néo-titulaires de disciplines scolaires différentes, donc en mathématiques, en lettres, documentalistes, on a en EPS. Et donc. On a donc accès, au travers de nos enregistrements à l'activité en classe, à une description extrinsèque de leur comportement, qui nous sert finalement de support pour pouvoir avoir accès ensuite à une description, cette fois-ci intrinsèque, puisque ce qui nous intéresse, c'est avant tout le point de vue des acteurs. D'où ces entretiens d'autoconfrontation, dont on va vous présenter aussi quelques extraits, qui nous serviront là aussi également de support par rapport au temps de travail collectif. On a vu ce matin que l'activité enseignante, notamment dans les réseaux Ambition Réussite, ne se limitait plus à l'activité en classe et qui se posait la question des activités enseignantes en dehors de la classe. Et nous, on a donc s'est posé la question sur la méthodologie qu'on pouvait entrevoir pour pouvoir avoir accès à cette activité hors classe. On a donc envisagé, en fait, alors c'est à chaque fois...
Laisse le micro. D'accord. Sur le support.
D'accord, je vais essayer de m'adapter. Par contre, Luc, t'as... Voilà. Donc, on a mis en place, en fait, On a demandé aux enseignants de narrer leur expérience, ou en tout cas leur activité, au travers de la tenue d'un journal de bord, sur lequel on leur demande, puisque c'est une activité qui est en cours, de consigner tous les faits marquants de leur journée, aussi bien sur l'activité en classe qu'en dehors de la classe. Donc chaque semaine, on reçoit donc via internet leurs journaux de bord, ce qui nous permet en fait d'avoir accès à leur activité en dehors de la classe. On a demandé donc aux enseignants d'accompagner en fait leur journal de bord d'une estimation, en fait ce qu'on a appelé donc l'échelle de confort-inconfort, où on leur demande donc de noter la semaine de moins 3 à 3 en essayant de simplement lier au plaisir et déplaisir ou confort-inconfort ressenti au travail. Donc ce qui est ce que vous voyez là, le petit graphique donc qui représente un flux émotionnel sur la manière dont l'enseignante, donc là c'est Luc va le présenter ensuite de manière un peu plus précise, où on voit les fluctuations sur du plaisir et puis à un moment donné des moments un peu plus difficiles où l'enseignante revit en tout cas vit son activité de manière un peu plus inconfortable. Tout ça pour finalement, au travers des entretiens de remise en situation, donc inspirés du cours d'action, pour avoir accès là aussi à la description intrinsèque de l'activité enseignante et nous permettre de modéliser leur activité. Et quand on parle de modélisation de l'activité, c'est simplement pouvoir déterminer les composantes de l'activité en termes de préoccupations, d'attente, de connaissances en construction et d'émotions. Voilà, donc c'est ce qu'on peut apercevoir donc sur la modélisation. On va vous épargner en tout cas le détail ou en tout cas toute l'approche théorique qui
Je reprends simplement, mais c'est simplement pour montrer d'où viennent ces matériaux qu'on va vous présenter juste après. Le type de modélisation pourrait être le suivant pour cette prof de PS ici, c'est-à-dire à la fois le flux en termes de confort-inconfort au travail sur l'année, avec une modélisation qui, plus que ce caractère émotionnel, ce qui nous intéresse, c'est de voir effectivement la liaison avec les événements, les contextes, de repérer les moments de travail en classe, hors classe, la construction identitaire auprès des élèves, auprès des enseignants, et de comprendre finalement de façon plus globale, selon des empans temporels longs, ce type de construction identitaire. Alors on voit ici simplement des extraits saillants pour elle du journal de bord. On voit également des enregistrements vidéo qu'on pourrait lancer à tout moment ici pour voir comment l'activité se construit, se progresse au fil, au gré des contextes et des expériences, avec donc tous ces moments-là d'explicitation de l'expérience, et ce qui nous permet d'avoir donc tout ce qui est de l'ordre de la construction professionnelle au cours et au gré des activités. On en reste là, en tout cas, sur cette présentation méthodologique et concernant cet observatoire. Et on va revenir maintenant à la thématique qui est la nôtre concernant l'émergence du travail collectif, puisque on recueille, ou en tout cas on a sélectionné un certain nombre de matériaux sur la co-intervention. Si j'avais ici à problématiser à minima cette problématique de la co-intervention, j'aimerais simplement mettre en regard deux références institutionnelles quand même relativement distantes l'une de l'autre, mais en ayant pratiquement la même préoccupation. La commission Ribault de 1899, insistant beaucoup sur le mal de l'individualisme, sur le travail cellulaire, sur l'enfermement dans les classes, et sur la nécessité pour ces enseignants de construire une œuvre collective pour pouvoir éventuellement mettre en partage cette activité qui est souvent ignorée d'une porte à l'autre. On retrouve ici dans le livre vert donc de 2008, le rapport Pochard, cette impulsion possible par rapport à l'évolution du travail enseignant. Il s'agit de stimuler le travail en équipe. Évidemment, il y a bien sûr cette question de la liberté pédagogique, mais on peut imaginer que là où, en tout cas ce sont les constats énoncés dans le livre vert, là où se développe actuellement le travail en équipe, il est souvent extrêmement fécond et il faudrait pouvoir le développer. Alors, voici une impulsion, non pas une prescription, mais en tout cas une orientation possible par rapport à l'évolution du métier. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin et d'essayer de décortiquer cette activité et de voir dans quelle mesure cette activité est pertinente. Alors, concernant une petite revue de littérature, très rapide, hein, simplement pour brosser un peu ce tableau, le travail collectif est actuellement un thème assez émergent, je trouve, dans la littérature. On retrouve l'une des premières traces au niveau d'une publication faite par Pascal Garnier sur « Faire la classe à plusieurs », au PUR 2003, où on voit ce changement, en tout cas, par rapport à la figure du maître, le maître dans une perspective au départ cellulaire, isolée, d'un travail qui se faisait en général la porte fermée, vers progressivement une figure évolutive, composite, plurielle, où l'enseignant est en permanence avec des partenaires, avec des relations de collaboration dans le temps scolaire. On retrouve plus récemment, en 2007, une autre publication, un collectif assez stimulant, en fin d'année 2007, sur de nouvelles pratiques enseignantes pour à la fois se coordonner, collaborer et coopérer. On est ici sur des travaux mettant en exergue les différents niveaux d'articulation et d'interaction des enseignants entre eux. La coordination étant assez large, on est ici sur une vision du cursus scolaire fait pendant des années et des années pour l'élève de coordination entre collègues, sans que ces coordinations soient réellement pensées. Elles sont souvent tacites, elles sont souvent informelles. On retrouve ensuite l'idée de collaboration au plus proche par rapport à un projet transdisciplinaire, projet disciplinaire, mais sans pour autant qu'il y ait une activité en classe conjointe. C'est surtout au niveau de la coopération qu'on peut voir apparaître un certain nombre de formes d'intervention in situ, d'enseignants de la même discipline ou de disciplines différentes. Ces auteurs introduisent leur ouvrage collectif en insistant sur des pratiques d'enseignement face aux élèves et insistent également sur l'aspect pléthorique des pratiques enseignantes de toutes ces activités formelles, informelles, cachées, insoupçonnées, en innovation ou en émergence, sur lequel il s'agirait maintenant de porter notre regard. Alors, c'est vrai que la problématique énoncée par Frédéric me semblait tout à fait pertinente ce matin, Frédéric Soja, concernant le fait que la construction identitaire s'effectuait de façon générale certainement au plus proche de l'activité en classe et qu'il y a un glissement vers d'autres activités. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être de réinterroger dans quelle mesure cette construction identitaire se développe autrement dans la classe à la suite de ces différentes activités hors classe. Il me semble qu'ici, il y a une paroi relativement poreuse et qu'un certain nombre d'évolutions, qu'un certain nombre de transformations s'opèrent en classe, mais aussi hors classe, et voire également en classe à partir des activités hors classe. Quelques résultats de recherche également pour essayer de mettre en évidence peut-être la difficulté à instaurer une véritable co-intervention. Le Baume, en 2007, insistait sur ces frontières de verre. En fait, souvent, dans ses premières investigations et premières expérimentations, notamment dans les IDD, les parcours croisés, on se retrouvait avec des enseignants qui finalement osaient ou s'autorisaient à co-intervenir, mais en deçà des exigences curriculaires. Comme si, finalement, le travail à deux limiter un peu les perspectives et les exigences curriculaires. Là aussi, on peut se poser la question de savoir si on est plutôt, si c'est vraiment une co-animation qui va être féconde et pertinente par rapport à des exigences et de véritables progrès avec de réels enjeux cognitifs pour les élèves, ou si au contraire, limiter un peu par nos propres doxas dans nos propres cultures curriculaires, on n'est pas dans une sorte de développement d'une proposition devant les élèves qui reste quand même relativement en deçà de ce qu'on pourrait faire seul. Là, ici, il y a peut-être à s'interroger par rapport à cela. Alors, je vais peut-être un peu vite, hein, mais le but, c'est d'aller vite au niveau des vidéos et puis vous interpeller, vous interroger par rapport à ces différents matériaux. Je me pose la question actuellement de savoir si, dans ces établissements Réseau Ambition Réussite, nous nous posons cette question-là, s'il est vraiment pertinent d'arriver à mettre ce travail en place, en sachant que d'un côté on constate l'émergence de ces nouvelles pratiques. Actuellement, tous les 15 jours, 3 semaines, on essaye d'enregistrer de l'activité collective, de la co-intervention entre profs d'une même discipline, mais également avec des enseignants de disciplines différentes. Est-ce que c'est le lieu le plus fécond pour pouvoir mettre cela en place? Et dans quelle mesure le turnover important, notamment dans des académies comme celle de Créteil, des académies d'accueil, Versailles, Lille, dans quelle mesure il est possible réellement de mettre en place des formes de co-intervention pertinentes, efficaces, ajustées, alors même qu'il y a dans ces établissements énormément de changements, de modifications et de turnover. C'est à la fois certainement une problématique très intéressante et on voudrait ici vous la soumettre pour l'interroger ensemble. Et malgré tout, le manque de stabilité de ces établissements, pour une grande partie d'entre eux, certainement est un point d'achoppement essentiel par rapport à la possibilité sur du long terme de comprendre les effets mêmes de la co-intervention. Ensuite, une autre problématique qui nous intéresse dans notre tropisme cristolien, c'est également de savoir, puisqu'on parle beaucoup de ces enseignants débutants, de ces nouveaux enseignants, si ceux-ci sont plus à même à travailler en équipe. Ils ont une formation différente, indéniablement, par rapport aux précédents, par rapport aux générations précédentes, avec beaucoup plus d'analyse de pratiques collectives, avec beaucoup plus de possibilités quand même de dévoiler leur propre activité et expérience personnelle. Est-ce que ces jeunes enseignants vont être plus enclins à travailler en équipe et finalement à créer de nouvelles ressources humaines beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinentes dans ce type de travail? Alors, avant même de passer à nos matériaux, nous apercevons avec Marie-Estelle beaucoup d'ouvertures de portes. Nous pouvons actuellement, dans l'établissement dans lequel on travaille, de façon... parce que tu as parlé des journaux de bord et du travail qu'on fait par correspondance, mais on est à peu près 2 à 3 jours par mois dans l'établissement à enregistrer, à faire ces travaux d'entretien, d'autoconfrontation. Ces enseignants sont prêts à ouvrir leurs portes très facilement. Et on voit de façon informelle beaucoup de personnes qui vont faire de la co-observation en classe, qui vont voir la pratique d'un autre de façon « je viens dans ta classe tout à l'heure, est-ce que tu acceptes ? J'ai une heure de trou ». Comme si finalement ils instituaient une sorte de formation informelle pour se former eux-mêmes et trouver des moyens et des pistes et éventuellement pour développer des échanges relativement constructifs avec leurs pairs. On voit ici vraiment une pratique qui est émergente et c'est à nous ensemble de s'interroger sur son efficacité. Nous vous proposons simplement, avant de vous montrer ces données et de les contextualiser un minimum, quelques questions qui pourraient nous organiser par rapport à la réflexion collective que nous souhaiterions avoir avec vous. Pourquoi vouloir co-intervenir ? Quelle valeur ajouter ? En s'attachant peut-être aux deux points, c'est-à-dire à deux points en particulier, c'est-à-dire la valeur ajoutée du côté des professeurs. Il est évident que nous sommes un peu, en posant cette question, marqués par cette question des néo-titulaires et de la possibilité pour des néo-titulaires de se former à partir de ce type de co-intervention, de dispositif, mais également la valeur ajoutée du côté des élèves. À quelles conditions cette co-intervention peut-elle être positive ? Est-ce qu'on peut, est-il raisonnable, peut-on envisager une typologie de ces différentes co-interventions ? Intervention à plusieurs. En sachant qu'ici, nous allons vous proposer 2 figures, 2 titulaires deuxième année de 2 disciplines différentes, et ensuite un professeur surnuméraire supplémentaire ou référent avec un néo-titulaire en mathématiques. Donc nous allons travailler sur du transversal, mais ensuite sur du monodisciplinaire. Ma présentation est beaucoup trop rapide, mais je voulais insister sur les recueils et non pas sur des considérations plus théoriques dans un premier temps. Des questions ? Pas dans l'immédiat. Marie, tu présentes ce premier recueil ?
Alors, ce sont donc, là je resitue les matériaux qu'on va vous proposer. C'est donc une co-intervention avec 2 néo-titulaires, 2 titulaires deuxième année plus exactement. Une enseignante donc en lettres et la deuxième enseignante donc en documentation. C'est donc une co-intervention avec une classe de 6e, donc au mois de janvier, sachant que les 2 enseignantes, c'est leur deuxième année dans le même établissement. Ça a son importance, surtout donc, quand on va écouter tout à l'heure l'autoconfrontation. Donc après, donc on va vous présenter il nous a semblé qu'il y avait à un moment donné trois scènes qui nous paraissaient significatives en tout cas de leur co-intervention et qui sera ensuite suivie de l'entretien d'autoconfrontation où, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui nous intéresse avant tout leur point de vue, c'est comprendre l'activité du point de vue des acteurs. Donc où on va essayer d'avoir accès en tout cas à leurs préoccupations, à leurs attentes, aux connaissances qu'elles ont pu construire avant ou pendant donc ce temps d'intervention. Donc la première scène est donc c'est le début du cours. Vous allez vous apercevoir que finalement c'est une il y a que la moitié de la classe puisqu'il y a la moitié de la classe qui va arriver en retard. Mais bon, enfin vous.
Avant de lancer la vidéo, y a-t-il des questions d'un point de vue méthodologique sur l'organisation du recueil ou sur la procédure même par rapport à ce temps de prise de notes et ensuite de répartition dans des salles? Est-ce que vous avez à peu près compris l'exercice ou faut-il qu'on le rappelle? Alors, on est en train de tester une co-intervention qui est pas du tout encore efficace, donc on est prêt à essuyer quelques plâtres. Non, pas de questions particulières. Je voudrais simplement souligner que ce travail a été aussi quand même impulsé en partie par Françoise Carreau, que l'INRP a participé en tout cas à ce travail-là, avec donc il y a une aide de l'INRP pour mettre en place ce travail, et que ces enseignantes ont pour leur part signé un contrat de collaboration et connaissent à la fois, enfin nous avons l'autorisation de présenter ces matériaux en formation. Et régulièrement, lorsque nous travaillons sur des cas vidéo, nous essayons d'en retirer le caractère typique ou intéressant, archétype, au-delà même des personnes qui interviennent, pour essayer de dépersonnaliser un peu et de repérer des éléments invariants dans leur activité. Et d'autre part, systématiquement, nous faisons auprès de ces personnes-là l'analyse même que nous ferions devant vous, pour qu'elles soient tout à fait au courant de nos interprétations, de nos jugements. C'est ainsi que par rapport aux deux professeurs de maths que nous allons voir après, j'ai fait tout ce travail de déconstruction avec eux, ce que nous allons faire tout à l'heure, et ils étaient tout à fait intéressés par ce type de retour et assez en phase, même si parfois un chercheur peut avoir une vision un peu décalée par rapport à ce que un acteur, un enseignant dans sa classe peut donner à voir, éventuellement peut vivre dans sa classe. On y va donc sur la première séquence. Alors ça c'est pour Monsieur Martin, nous avons ici... Nous avons ici des vidéos qui ne sont pas d'une grande qualité. Régulièrement, on essaye d'évoquer les problèmes de contre-jour, de mauvaise météo. En fait, on travaille sur des matériaux, en tout cas sur du matériel audiovisuel assez amateur. Nous sommes plutôt des anthropologues immergés au fond des classes, en essayant d'être le moins visible possible, en essayant d'être le plus discret possible, en faisant passer les mots des fois lorsque les élèves nous demandent ou nous prennent un peu pour des pères, enfin c'est peut-être de l'ordre du fantasme d'ailleurs, et donc on fait en sorte d'avoir une qualité de son suffisamment bonne, mais c'est vrai que des fois, surtout là, ça risque d'être pas très très bon.
Juste une petite précision, parce que je pense que ça peut participer au moins pour une meilleure compréhension. L'enseignante documentaliste, qu'on va entendre un peu plus d'ailleurs, ou plus de manière plus audible que la deuxième, c'est donc la personne qui vient de prendre la parole et qui a un micro HF, un micro cravate. Et donc on va entendre la plupart de ce qu'elle va dire. Et c'est vrai qu'on va entendre donc la deuxième enseignante, qui est donc enseignante en lettres, de manière un peu plus lointaine. Voilà. Donc et c'est donc Clémence qui travaille avec nous et qui a accepté. Qu'on suit donc tout au long de l'année, et donc la deuxième enseignante en lettres, qui elle par contre a accepté ponctuellement de prendre part à l'activité, enfin à cette recherche avec nous. Voilà. Donc volontairement, on a mis des extraits relativement courts. On est donc là sur le début de la séance où les enseignantes débutent l'activité, ou en tout cas l'intervention en classe. Le deuxième extrait qu'on a sélectionné, donc les élèves après cette présentation, ce premier temps de travail en tout cas s'adressant à la classe collectivement, les élèves sont donc placés devant un ordinateur par deux ou trois, et donc les enseignantes vont cette fois-ci intervenir de manière un petit peu plus individualisée, ou en tout cas au moins d'un point de vue extérieur. Alors je ne sais pas si on a vraiment bien entendu, parce que c'est vrai que du coup Emily n'a pas de micro, donc mais les deux dernières remarques sont exactement, elles utilisent, c'est exactement la même chose. On est vraiment sur une activité symétrique, mais on verra ça tout à l'heure certainement au moment de l'analyse. Et puis on voulait quand même pointer un moment quand même qui dans la séance qui là aussi peut révéler un certain nombre de difficultés liées à la co-intervention. Donc là ce sont donc trois extraits qui à notre sens peuvent être support pour pouvoir au moins analyser et puis répondre en partie aux questions, ou en tout cas aux voies de questionnement qu'on a pu envisager. On a donc là, quand on regarde les vidéos, accès à une, en tout cas à l'activité d'un point de vue extérieur. C'est une description qu'on pourrait faire et qu'on va faire plutôt extrinsèque. Et donc, comme on l'a présenté tout à l'heure, dans notre observatoire, ou en tout cas au travers de la méthode qu'on met en place dans cette recherche, ce qui nous intéresse donc, c'est pouvoir permettre à l'acteur, aux acteurs, de pouvoir décrire de leur point de vue leur activité. Donc on va écouter maintenant quelques extraits d'autoconfrontation pour essayer de comprendre ou d'avoir en tout cas d'accéder au point de vue donc des deux enseignantes.
Y a-t-il des questions sur ces premiers recueils, simplement de compréhension par rapport à des éléments qui vous manqueraient? Très peu d'élèves dans la classe, tu peux rappeler le nombre?
C'est une classe de 6e, là, après on était bien sur 20, il y avait 20 élèves d'ailleurs, il y a eu quelques problèmes de PC, ils étaient 3 par PC, voire 4. Mais,
20 ou des fois 16, enfin c'est pas des nombres, hein, ça correspond à peu près aux caractéristiques de ce genre de classe dans ces établissements-là. Démultiplier autant, avoir deux intervenants pour 16, 14 élèves comme on va voir tout à l'heure, quelle pertinence? Pour avoir eu une toute petite expérience d'intervention en Guinée où les jeunes enseignants à bac plus 2 commencent avec 250 élèves, on peut se poser la question de savoir de la géométrie la plus confortable, la plus pertinente pour intervenir. Est-ce qu'il y a des chiffres critiques ou des barrières critiques à franchir ou pas? Il y avait une ou deux questions, je crois, simplement. Oui, là-dessus, on est en train de discuter en aparté en disant que ça correspond pas vraiment à notre façon de travailler sur l'autoconfrontation. Là, c'est plutôt une sorte de bilan collectif et qu'on travaille au plus proche de l'activité de façon plus fine que ça. Dans ce que vous allez voir après dans le deuxième corpus, on verra ça. Quand est-ce que c'est pour toi une bonne co-intervention ou pas? En tout cas, par rapport à une estimation critique un peu de leur travail. Oui.
Non, ça commence tout de suite comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, bon, là, on parlera tout à l'heure de la question des statuts. En plus, bon, en tant que documentaliste, qui revendique son statut de professeur, donc elle tient absolument à ce que les élèves puissent l'appréhender en tant que tel. Ouais. Oui, ils l'ont déjà. Voilà, parce qu'elle a déjà organisé des séquences au CDI de présentation, donc ils connaissent l'enseignante. Oui. Ouais. Mais ça commence. Voilà, vous avez vu le début.
Alors, deuxième corpus, si vous acceptez cela, une co-intervention cette fois-ci en mathématiques. On n'est pas très satisfait de ces matériaux de recherche, et c'est pas là notre objet principal, la co-intervention. Et par exemple, pour la semaine prochaine, je dois enregistrer une activité de co-intervention en lettres. Je ferai en sorte d'interroger quelques élèves, de voir des traces d'activité des élèves, parce qu'on peut pas simplement se satisfaire de l'activité des enseignants de façon un peu globale et un peu générale. Et il faut voir au plus proche de l'activité des élèves ce qui se joue également. En tout cas, c'est une réserve que je voulais émettre assez rapidement. Ici, on est avec un professeur supplémentaire ou référent qui a, Patrick, 7 années d'expérience à peu près, qui est un professeur chevronné, charismatique, référence, référé, en tout cas en ayant une... Je crois ici beaucoup de poids dans l'équipe de mathématiques. C'est lui donc qui a revisité complètement les exigences que pouvaient avoir ses enseignants par rapport à des élèves de 6e en difficulté en mathématiques. Et donc il a depuis une année pris l'habitude, là encore on voit que ça s'installe dans le temps quand même, de travailler avec plusieurs néo-titulaires qui étaient néo-titulaires, qui sont maintenant titulaires 2e année. Avec, je vous dis simplement cela, et je vous laisserai ensuite juger de la situation, des rôles très précis dans la façon d'accueillir la classe, de mettre les élèves au travail, éventuellement de travailler ensuite de façon de contribuer à des aides individualisées. Alors, je vais aussi être peu bavard pour pouvoir vous présenter ces quelques séquences, répondre à vos questions si besoin. Nous sommes avec une classe de 14 à 16 élèves, de 3e, avec des élèves décrocheurs, des élèves primo-arrivants, donc des élèves en grande difficulté pour certains, et je laisserai également je vous présenterai quelques bribes d'interaction alors même que ça se passe des fois entre midi et 2h, qu'un des deux a un sandwich dans la bouche. Enfin bon, on travaille toujours un peu en urgence dans des contextes les plus proches de leur activité ordinaire. Alors nous sommes avec Maxime, c'est plus bruyant, nous sommes avec Maxime qui accueille sa classe, et nous allons voir ici, là, près de la porte, le professeur référent qui vient s'installer également. Il va le dire lui-même comme un élève. Voilà. Donc ensuite, on arrive à une mise au travail des élèves assez rapide. Hein, je vous passe les détails. Avec Zouir, donc, qui est notre professeur référent, qui va s'installer près des élèves, qui va s'asseoir ici et là pendant quelques secondes, des fois 15 secondes, des fois 30 secondes, pour faciliter la prise en main des élèves. Et ensuite, nous arrivons à la partie magistrale. Pour vous aider un peu à comprendre cette image en contre-jour, d'un côté, il y en a un qui est le pilote de la classe, et l'autre qui profite de ces quelques instants pour donner quelques éléments supplémentaires pour que l'élève puisse réaliser assez rapidement l'exercice, comme s'il pouvait profiter d'une quinzaine ou d'une trentaine de secondes pour donner les éléments essentiels ou préliminaires, les prérequis, à la réalisation de l'exercice. Je coupe son activité, excusez-moi, pour passer à la deuxième partie et pas trop traîner. Une activité donc complètement asymétrique où l'un s'assoit régulièrement près des élèves en difficulté et l'autre pilote. Et ensuite, il y a un temps de travail où tous les deux effectuent pratiquement le même travail. À vous d'en juger. Alors voilà, sans plus attendre maintenant, quelques éléments même pour comprendre l'expérience et la façon dont ils ont vécu cette situation de co-intervention. Je le répète, qui est une activité routinière pour eux. Ils ont l'habitude d'intervenir comme ça. Et lorsque le néo-titulaire va dans la classe de son professeur référent, qu'il ne nomme pas comme ça son collègue, il adopte la position asymétrique également, complètement réversible, où il est comme ça en train d'aider les élèves en difficulté. Il adopte exactement le même format d'intervention. On les écoute quelques instants. J'ai voulu ici filmer simplement l'écran et ça donne une image absolument obscure. Mais on va écouter les sons. Il y en a un qui est plutôt du sud de Marseille ou de Montpellier. On va l'entendre au niveau du... Bon, dernier tout petit bout d'extrait. Est-ce que la co-anime, hein, il parle de la sorte, c'est plutôt de l'ordre de la démultiplication a posteriori sur du travail individualisé, ou est-ce que c'est la possibilité de débrayer un enseignant qui va, dans ses petites bulles individuelles, faire un travail en amont pour préparer finalement à l'exercice? C'est à vous de... Enfin, on voudrait écouter votre point de vue sur cela. Je termine simplement sur un extrait court. On en reste là. Donc, on voit beaucoup de préoccupations sur le contrôle des élèves, hein, quand même, sur les néos ici. Je voudrais quand même préciser que ce professeur référent, cette en ancienneté, se défend de faire de la formation. Il dit « je suis incompétent par rapport à la capacité à faire de l'accompagnement ou de la formation des enseignants ». À vous d'en juger, je trouve quand même qu'il apporte quand même beaucoup dans cette activité-là. Des questions, pareil, simplement sur la compréhension de ce corpus, avant que cette fois-ci, vous puissiez vous répartir dans vos différents groupes. Non, pas de questions Donc l'idée, hein, je le rappelle, ça serait de reprendre les questions qui vous ont été posées en amont et d'essayer, à la lumière de ces différents matériaux, de réagir, de commenter, d'analyser, de proposer sans aucune... en essayant d'être très libre, hein, en termes de l'expression.